J'ai eu une existence aéronautique car j'ai beaucoup piloté. Et alors j'ai fait beaucoup de vols avec les Mermoz et Saint-Exupéry et d'autres pilotes. Même dans mon entier songé que j'ai été invité en 71, Monsieur Ziegler, quand il est venu ici avec le Concorde, m'a invité à faire le voyage de Uriot. J'ai eu une existence aéronautique car j'ai beaucoup piloté. Et alors j'ai fait beaucoup de vols avec les Mermoz et Saint-Exupéry et d'autres pilotes. J'ai participé à des. J'ai fait des enquêtes sur les lignes aériennes dans mon entier. Songez que j'ai été invité en 71, Monsieur Ziegler, quand il est venu ici avec le Concorde, m'a invité à faire le voyage de Uriot à Cayenne en Concorde. Or j'ai eu cette émotion, moi qui. Était venu au Brésil sur des avions, mes approches du Brésil, c'était sur des avions qui volaient à la vitesse prodigieuse de 150 km à l'heure et une altitude non point prodigieuse de 500 mètres, de partir sur un avion qui fait du 2900 km à l'heure. C'est vous dire que dans l'espace d'une vie, les progrès qu'on a enregistrés dans l'aviation, c'est quelque chose de fabuleux. Et alors, comme à cette époque-là, l'esprit aéronautique était un esprit très fraternel, Il y avait aussi le tempérament personnel des gens. Un homme comme Mermoz était un homme extrêmement liant, extrêmement cordial, amical. Et Mermoz avait des amis ici. Quand l'arc-en-ciel, en 1933, a fait le vol au-dessus de l'Atlantique et est venu d'un seul vol jusqu'en Argentine, avec une escale à Rio, les aviateurs militaires brésiliens ont fait une escorte et parmi eux, il y avait Francisco Melo, et le général Lavener-Vanderlei, qui est devenu lui aussi ministre de l'air ensuite, qui est devenu un très grand personnage du Brésil, qui comme lieutenant avait tous les deux sur un petit avion de chasse, ont fait escorte à l'arc-en-ciel pour aller l'accueillir. L'aéropostale qui a créé la plupart des aéroports brésiliens et qui a fait la plupart des installations de radio des aéroports brésiliens. Toute l'infrastructure brésilienne a été faite avec l'accord des autorités brésiliennes en standardisé sur le modèle français. L'aéropostale était très bien conçue, si vous voulez, c'était Bouillot-Lafont qui, dans la période où Bouillot-Lafont était le patron, il connaissait bien le Brésil puisqu'il y avait des quantités d'affaires. Et alors il avait songé à allier tous les pays qu'il traversait à son aventure. C'est-à-dire que l'aéropostale avait partout une filiale. Ici, vous avez eu l'aéropostale brésilienne. En Argentine, il y avait l'aéropostale argentine. Au Venezuela, vous aviez l'aéropostale vénézuélane. Il avait partout créé des compagnies ou quand il n'y avait pas de compagnie, il y avait partout. Vous avez par exemple en Uruguay, le directeur de l'aéronautique civile a été longtemps un ancien radio de l'aéropostale. Parce qu'on engageait des gens sur place et on créait une sorte de communion, d'idéal commun, de travail commun qui faisait qu'on avait une très grande pénétration parce qu'on était rapidement considérés presque comme des gens du pays. La plupart des aéroports sont les aéroports qui ont été choisis par un pilote qui s'appelle Vacher. Mais Vacher était justement l'homme des terrains, celui qui, avec des moyens de fortune, en atterrissant sur des plages, est arrivé à reconnaître les meilleurs endroits, les endroits qui paraissaient les plus favorables, négociant avec les propriétaires qui souvent donnaient les terrains. Et notamment, un cousin de ma femme a donné le terrain de Recife, qui est actuellement le terrain qui est utilisé actuellement, qui est devenu le grand aéroport de Recife, qu'on a agrandi, qu'on a aménagé. Il y a eu une très grande coopération, une très grande participation du Brésil à tout cela. Les sympathies allaient beaucoup vers l'aéropostale parce que c'était tout de même la compagnie qui avait eu les exploits les plus spectaculaires. Puis alors qu'il y avait des hommes qui étaient eux-mêmes des personnages tout à fait hors série, n'est-ce pas? Un homme comme Mermoz sortait de l'ordinaire. Saint-Exupéry, c'est un génie. Ensuite, lorsqu'il a commencé à écrire, il a eu des lecteurs, il a eu une philosophie de l'aviation, il a créé une mentalité aéronautique. Il y avait aussi un homme dont l'autorité était parfois discutée, mais qui était une autorité réelle, c'était Dora, qui était le grand patron de l'aéropostale, ligne de la TCOR, aéropostale et ensuite Air France, lequel était un très grand chef qui savait donner des missions, qui savait persuader aux hommes, les hommes, au lieu de s'apitoyer, si vous voulez, Dora ne s'apitoyait pas, il grommelait quelque chose, quelquefois disait que c'était bien, mais enfin c'était très rare, considérait la chose comme tout à fait naturelle, qu'on ait surmonté des épreuves incroyablement dures et pénibles. Le grand exemple qu'a donné Dora, c'est qu'il a donné aux gens le sentiment que ce que les machines ne pouvaient pas faire, l'homme peut le faire. L'origine de cette ligne, les débuts de l'aviation ont été à peu près les mêmes partout. C'était ça, un désir des gens de continuer à voler, des pilotes qui avaient piloté pendant la guerre, de continuer à voler. Ils ne voulaient pas, ils avaient découvert une vocation, ils voulaient vivre leur vocation. Dans l'aéropostale, Dora a créé, quand je dis l'aéropostale, c'est pour abréger, parce que ça s'est appelé ligne aérienne de la TCOR, ensuite aéropostale et ensuite Air France. Disons la ligne pour abréger. Dans la ligne, on a créé ce qu'on appelait l'esprit de la ligne. Ce n'était pas du tout pour l'argent. Si vous voulez, l'époque la plus magnifique de la ligne est celle où les pilotes gagnaient le moins. Saint-Exupéry à Juby couchait dans une baraque en planche. Et avec de l'eau qui venait des îles Canaries, avec un ravitaillement. Je me rappelle à Juby avoir fait un jour, avoir débarqué à Juby, le festin se composait de quelques ronds de saucisson, de quelques bouteilles de vin qui subsistaient, puis alors très peu d'eau car il n'y avait plus d'eau, on attendait le vapeur des Canaries. Dora a eu un don assez extraordinaire qui est justement le don du chef, c'est de découvrir des hommes, des hommes qui avaient une valeur venant de tous les milieux, qui avaient justement ce qu'il fallait pour se réunir et pour, dans leur groupe, cultiver cet esprit de la ligne. D'abord le créer, puis ensuite le cultiver, le maintenir. Et l'amitié existait parce qu'il ne la laissait pas sentir. Beaucoup de pilotes et beaucoup d'équipages croyaient que c'était un type absolument insensible parce qu'il écoutait très froid le rapport qu'on lui faisait d'une épopée fabuleuse et puis il ne disait rien, très bien, merci, vous mettrez ça dans votre rapport. Alors le type disait, c'est vraiment pas la peine de se casser le derrière, vous faire des choses magnifiques, voilà. Mais dans le fond, il était absolument... Alors moi, si vous voulez, qui justement n'était pas dans la hiérarchie, bien des fois, je me suis trouvé avec lui à Toulouse, dans le hangar, auprès d'un poêle qui avait un tuyau interminable qui montait dans les altitudes en hiver. Et les heures passées, 11h, minuit, je disais, monsieur Dora, on pourrait peut-être tout de même aller se coucher. Il disait non. Et il attendait que le dernier avion soit arrivé à Santiago du Chili, d'avoir le dernier message pour être rassuré sur le sort. Les pilotes ne le savaient pas, personne ne savait ça. Comme anecdote, si vous voulez, il y en a une que je trouve très belle, c'est Delaunay, qui était un pilote absolument merveilleux, et qui ici, sur une plage dans le sud du Brésil, a sauvé ses passagers en continuant. Son moteur a pris feu. Lui se trouvait à l'avant au poste de pilotage et s'il ne continuait pas à piloter, l'avion entrait en perte de vitesse et donc tout le monde était sacrifié. Alors il a continué à piloter, tirant de temps en temps ses pieds ou ses mains qui brûlaient, mais enfin il est arrivé en manœuvrant le mieux possible dans ces conditions-là et au prix d'une véritable torture, atterrir convenablement et à sauver ses passagers. C'est un exploit qui, à l'époque, a fait grand bruit. Il était longtemps à l'hôpital et il a été toujours déformé. Ses doigts étaient déformés. Malgré tout, la visite médicale, sachant la raison de cet accident, lui avait toujours permis de piloter. Il a continué une très brillante carrière de pilote. Il est difficile, en quelques minutes, même en quelques heures, d'évoquer 50 ans d'une histoire prodigieuse. En événements, si on peut vous raconter Il y a le côté dramatique, les aventures du désert, les captivités dont je ne vous ai pas parlé, de Rennesser, la captivité de Mermoz, le drame d'érable et de gourpes qui ont été massacrés par le sauvetage d'un avion dans le désert par Saint-Exupéry qui a ramené un moteur à dos de chameau avec une troupe de guerriers qui protégeait son retour vers Juby, des mercenaires qui étaient là en train de tirer sur les Rguibates qui les menaçaient. Enfin, il y a eu des quantités d'aventures, c'est un roman d'aventures.